Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
La lecture est une amitié. C'est Marcel Proust qui disait ça. Et comme vous me faites l'amitié d'être là toutes les semaines pour écouter l'émission, et les invités me font l'amitié de venir, évidemment, complètement bénévolement aussi, hein, s'il y en a qui se posaient la question, eh bien, je me dis que c'était vraiment la phrase qu'il fallait pour ouvrir cette nouvelle édition de l'émission à livre découvert.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, pour la première fois, je vais m'entretenir avec Anne Jarry, qui a lu pour nous un livre de Michel Tremblay. Je reçois Patrick Dion, qui est déjà en studio. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, auteur notamment du livre Folle Alliée, évidemment disponible au SQLA. Il y aura un classique de la semaine aujourd'hui, Mansfield Park, qui nous permet de revisiter l'œuvre de Jane Austen. Et puis il y aura aussi une rubrique sur la table de chevet de Clotilde. Aujourd'hui, ce sera un livre de Philippe Delerme. Je vous parlerai aussi du Royaume, le livre Le Royaume d'Emmanuel Carrère, parce que la semaine prochaine, je reçois Luc Mercure, qui est le bénévole qui l'a lu ici chez Vues et Voix. Nous évoquons le décès de l'auteur Geneviève Robitaille, dont les livres sont également disponibles, et nous terminerons l'émission avec quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Anne, Anne Jarry.
Bonjour Clotilde.
Ah, c'est vrai que vous en mangez du livre audio?
Eh bien, j'en écoute énormément.
C'est vrai.
Je dois dire que c'est un passe-temps extraordinaire qui m'amène un peu partout à travers le monde, dans ma tête, dans toutes sortes d'histoires.
Parce qu'en plus, je précise que vous-même, vous êtes une femme passablement occupée quand même, Anne. Alors, vous arrivez quand même à trouver le temps pour lire. Ça, c'est formidable.
Tout à fait, tout à fait. Je dirais même que j'expérimente différents formats de livres en braille électronique,
oui,
en mode
oui.
audio, des formats EPUB, texte électronique, etc.
Ah oui,
alors,
hein.
À la fois, mon travail m'amène à découvrir d'autres façons de lire. C'est formidable. Je joins mon travail et le plaisir en une seule activité.
Ah, c'est bien ça. Parce que, voyez-vous, la semaine prochaine, c'est quelque chose dont nous parlerons beaucoup avec Gérard Saint-Denis. Toutes les formes de lecture et tous les moyens pour pouvoir lire justement quand on est non-voyant, que ce soit partiellement ou totalement.
C'est un bon ami à moi, monsieur.
Oui, hein. Eh bien, écoutez, c'est lui qui m'a dit « Oh, comment ça se fait que tu n'as jamais appelé Anne Jarry ?» Ben, j'ai dit « Ben voyons donc, il a bien raison. » Anne, vous nous parlez, je suis tellement contente de votre choix, c'est vous qui allez nous le présenter, parce que je m'attendais à ce que tout le monde se l'arrache et que tous les invités veuillent en parler, et finalement, oui. Vous êtes la première à me dire « Je voudrais parler de ce livre-là, je vous laisse le citer. »
Écoutez, ce livre de Michel Tremblay a été pour moi une découverte, puisque je ne suis pas quelqu'un qui a dévoré les livres de Michel Tremblay au cours de ma jeunesse. Je le connais et j'ai plutôt oui. assisté aux pièces de théâtre. Mais j'ai été chercher le livre un peu par hasard en montrant à mes étudiants comment télécharger un livre sur le site, à ce moment-là, sur le site d'Inca.
Oui.
Et je me suis retrouvée avec le livre sur mon appareil. Et j'ai commencé à l'écouter. Je n'ai plus été capable d'arrêter.
On parle bien du livre « Les clés du paradise ».
Tout à fait.
C'est
Les clés
bien
du
ça.
Paradise, avec votre thème d'aujourd'hui qui est sur l'amitié.
Oui, hein?
Je vous dirais que ce livre, c'est un peu sur l'amitié entre les gens que l'on découvre mm-hmm. dans ce livre. Mm-hmm. Ça se passe dans les années 30. Mm-hmm. C'est la vie d'Édouard, au départ, qui a 17 ans et qui découvre son homosexualité mm-hmm. et qui rentre dans le grand monde.
Oui.
Et à travers ça, on voit toutes les sœurs des Rosiers qui m'ont beaucoup touchée, dont une en particulier, Thilou, qui est atteinte de diabète. Et donc, il y a des histoires, dont celle d'Édouard et celle de Thilou, qui m'ont fait rire et pleurer parce que je m'identifie à leur vie et à leur saga.
Ah, en effet. Et je suis sûre que ça vous a forcément, en tout cas, bon, je ne sais pas, mais donné l'envie de vous plonger dans cet univers-là, non?
Oui, ça m'a donné envie de découvrir Michel Tremblay davantage. J'ai su également que ce livre était aussi le deuxième ou le troisième d'une série de livres. Celui juste avant Les Clés du Paradise, c'était Au hasard la chance.
Excusez-moi, je ne me souviens plus. Lequel c'était, vous me dites?
Ça s'appelle Au hasard la chance.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui.
Et Au hasard la chance, c'est l'histoire finalement de Thilou, ce personnage qui m'a tant émue dans les clés du paradise. Je pleurais. En fait, les larmes me coulaient.
Ah, c'est vrai.
J'étais vraiment touchée par son histoire. Et c'est le dialogue aussi, c'est la qualité de l'écriture de Michel Tremblay qui nous laisse vraiment rentrer dans l'intimité de ces personnages avec toute l'émotion.
Vous savez, je trouve ça très bien que vous nous disiez ça parce que lorsqu'on est des fidèles de Michel Tremblay, lorsqu'on est des habitués.
Oui.
Moi, je sais que, par exemple, j'avais découvert les chroniques du plateau Mont-Royal. Je n'habitais pas encore à Montréal et ça fait quasiment 30 ans que je suis là, voyez-vous.
Oui.
Et donc, je peux dire que je suis une vieille fan. Et lorsque je suis arrivée, pour moi, il était hors de question d'habiter trop loin de la rue Fabre et de la rue Garnier. Quoi. Il fallait que j'habite dans le coin où ça se passait.
Oui.
Et je me dis, vous savez... Je vais prendre un exemple, une métaphore, comme on dit. Moi qui ai changé de pays, lorsque je suis arrivée ici, ben évidemment, c'est comme tout est beau, tout est rose. Et puis à un moment donné, finalement, on oublie un petit peu. Puis là, ben, chaque fois qu'il y a des Français qui arrivent, ils me disent « Ah, mais ça, c'est formidable, ça, c'est formidable. » Et je retrouve exactement. Et là, c'est exactement ce que vous êtes en train de nous faire. Vous comprenez, avec l'œuvre de Tremblay, ça veut dire, je me demande si on ne s'y est pas trop habitué à cette belle écriture. On rentre là-dedans comme dans des vieilles pantoufles. Et là, tout d'un coup, on a quelqu'un qui nous dit « Oh, puis alors, cette écriture et ces personnages ?» Et on fait « Ah, oui, c'est vrai. »
En fait, moi, ce que ça me dit, c'est « J'ai tout à découvrir sur Michel Tremblay.
Ouais, »
J'avais lu Hôtel Bristol, j'avais lu il y a longtemps Les Belles-Sœurs, mais sans vraiment m'imprégner de cette écriture.
Mm.
Et puis maintenant... que j'habite sur le plateau, en fait, mais sans pouvoir m'identifier à ce que Michel Tremblay écrit des années 30, 40, 50. Mais quand même, ça me fait revivre toute une époque de Montréal qui fait partie de moi aussi, même si...
Et vous savez ce qui est intéressant, je suis allée chercher entre autres une rencontre entre lui et Marie-Christine Blais de la presse, et il explique que Édouard est le seul individu finalement qu'il est complètement inventé. C'est-à-dire que souvent tous ces personnages lui font penser à des gens ou de sa propre famille ou plutôt d'ailleurs à des amis, à des gens comme ça, mais Édouard. Et je peux même vous dire que Édouard, ça lui est venu au Mexique. À un moment donné, il avait obtenu une bourse pour aller écrire au Mexique, où ça coûtait à peu près rien. Et tous les soirs, il se retrouvait près d'un bar-resto qui était bondé de Québécois. Alors, il n'allait pas dans le restaurant parce qu'il ne voulait pas se mêler à eux, mais il s'asseyait sur un banc sur le parc à côté.
Ouais.
Et entre autres, un jour, il voit ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs une vieille folle monter sur une table et faire un fou de lui. Et c'est cette personne-là qui lui a donné envie d'inventer un personnage qui ressemblerait à Édouard.
Intéressant.
Ça, c'est intéressant.
Moi,
hein.
Moi, j'ai pensé qu'il y avait quelques éléments qui auraient pu venir de Michel Tremblay lui-même.
Pas dans Édouard, en tout cas.
Pas du tout dans Édouard?
Non, pas du tout dans Édouard. Il dit, sauf un peu un ami dont la folie peut se rapprocher un petit peu d'Édouard, mais non, c'est vraiment le seul... Oh, puis Josapha le violon que vous avez dû découvrir, et puis Victoire, et puis... tous ces personnages. La duchesse de Langeais aussi, qui a été battue sur Édouard, sur le personnage d'Édouard.
Oui, en fait, c'est intéressant aussi son intérêt pour Honoré de Balzac, et ça donne envie d'aller chercher le livre et de le découvrir également, puis de s'intéresser aussi à une littérature peut-être plus classique, mais qui nous permette ici au Québec de voyager, en fait.
Exactement. Et je voudrais vous lire à un moment donné ce qu'il dit, Tremblay à... c'est la réponse à la question « Est-ce que vous allez écrire autre chose après ça ?» Il dit « Si j'écrirai autre chose après ça, non, quoique, je me rends compte que si les gens commencent par lire la diaspora avant les chroniques, il va en manquer des bouts à la famille des Rosiers.
»
Parce que, bah, c'est, en tout cas, c'est, écoutez, je suis vraiment contente, Anne Jarry, que vous nous ayez parlé comme ça de Michel Tremblay, et contente que ce soit une personne, finalement, entre guillemets, qui le découvre, en tout cas, qui découvre cet univers dans les romans, en tout cas, romancés.
Tout à fait, c'est une découverte et un réel plaisir. Je vais poursuivre avec plusieurs de ces romans.
Ben écoutez, et vous reviendrez nous en parler?
J'aimerais bien, oui.
Hein, pourquoi pas? D'accord, Anne. Merci, Anne Jarry, merci à vous et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée.
Merci.
Au plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Notre invité spécial, c'est Patrick Dion. Bonjour Patrick.
Bonjour, c'est moi ça le spécial.
Oui, ben, c'est ça, oui. On remarquait, c'est vrai que c'est un petit peu un adjectif passe-partout. Mais c'est parce que spécial, c'est que moi, dans ma tête, spécial, c'est comme important.
Hein. Ben, c'est j'aime pas, ça, alors. Merveilleux.
C'est pas dans le côté...
Ça aurait pu être péjoratif aussi, c'est pas grave.
Oh non.
On s'accepte tel qu'on est.
Oh non. Ben non, parce que, vous savez, j'en reçois du monde ici. Il y en a là. Puis c'est ça, c'est vraiment dans le sens de... extraordinaire.
Mais et je suis content. J'en attendais pas tant.
Je suis contente de vous recevoir, Patrick, parce que c'est une suggestion de ma camarade Christiane Campagna qui m'a dit « Est-ce que tu te souviens du livre Folle Alliée ?» Je lui ai dit « Je me souviens avoir lu d'excellents commentaires sur le sujet, mais malheureusement, je ne peux pas me souvenir du livre. Je ne l'ai pas lu, mais j'adorerais recevoir. Ben, » Elle dit « Écoute, je le connais, je te mets en contact. » Et vous êtes venu et je vous en remercie beaucoup. On va donc parler de
plaisir.
Ce Folle Alliée. Je voudrais préciser que Folle Alliée, ça s'écrit donc en deux mots, Folle, F-O-L, et
voilà.
Allié comme un allié.
Exactement, au sens masculin du terme.
Au sens... Et où l'homme... Oh, qu'il en arrache. C'est un chagrin d'amour énorme.
Oui, tout à fait. C'est bâti sur un chagrin d'amour d'un garçon qui perd un peu contact avec la terre, avec ses repères, et puis c'est la déchéance qui suit cette peine d'amour-là. Et avec un petit voyage dans son passé, et à travers justement, il y a des réminiscences de son passé, il essaie de voir qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé qui l'a amené à saccager son amour pour cette personne-là en particulier?
Parce que c'est ce qui est arrivé. C'est un saccage, je veux dire. C'est quelque chose qui l'a provoqué.
C'est un sabotage.
C'est un sabotage.
Comme plusieurs personnes font aussi en amour. Je veux dire, souvent, on sabote nos relations personnelles parce qu'on a peur, puis pour plein d'autres raisons. Mais lui, ce personnage-là, essaye de comprendre pourquoi on était venu à saboter son amour.
Et j'ai lu partout qu'au niveau des mots, au niveau des images, c'est une écriture extrêmement forte, mais vous êtes un homme d'écriture. On va s'éloigner peut-être un petit peu parce que vous êtes un blogueur incommensurable. Vous avez été un des premiers blogueurs à Montréal,
Je suis dans les dinosaures.
C'est vrai?
Oui, ça fait longtemps. J'ai eu un blog en 2002. J'ai commencé à bloguer en 2002.
Et vous bloguez encore?
Je blogue encore. Maintenant, je blogue beaucoup moins de façon littéraire, mais je blogue quotidiennement, entre autres pour Sympatico.
Et est-ce que vous vivez de votre plume?
Oui, absolument. Ben, en fait, je suis chanceux parce que si on considère le blog comme une forme d'écriture, oui, je vis de ma plume.
Okay.
Et en plus de pouvoir chroniquer à la radio de Radio-Canada, on s'entend que les chroniques sont toujours écrites. Donc, oui, je vis de ma plume.
Alors, revenons à Folle Alliée,
donc
à ce personnage. Ce que je vous propose, on pourrait écouter un petit bout, au moins le début, parce que ça dure quand même 2 minutes. On va écouter le début de la bande-annonce que j'ai déjà diffusée la semaine dernière en prévision de votre venue aujourd'hui.
Parfait.
Salut, Alex. Ça y est, elle est partie. Elle a traversé la chambre, puis le couloir, puis à la porte, elle est partie. C'est rough. C'est comme si tout ce que j'aimais avait traversé la porte, là. Je comprends pas.
Oh, que c'est...
C'est étrange parce que ça faisait longtemps que je l'avais entendu, puis je l'ai sorti la semaine dernière, justement pour l'émission ici. Puis les émotions qui me submergent à l'écoute de ça, puis là encore, là, je veux dire, je l'entends là, puis j'ai des frissons. la prestation de Christian Roy, qui était le comédien qui a joué, Eric dans, dans la bande-annonce, était incroyable. Puis, puis on le sent vraiment à chaque parole avec la musique de Jérémy Assiam en plus.
On ne veut tellement pas être à sa place et on imagine tellement la porte qui se referme sur la dame en question. Je lisais à un moment donné une critique. On a rarement mis en mots de façon aussi convaincante les blessures d'amour masculine dans la littérature québécoise.
En fait, je trouve ça beau, puis je me souviens de cette critique-là. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que ça vient d'une femme. Mm-hmm. C'est une critique qui vient d'une femme.
Ouais.
Puis, c'est vrai, je dirais pas que les hommes parlent pas tant que ça de leur peine d'amour. Je pense qu'on l'exprime tous de façon différente. Moi, je l'ai exprimé dans un livre, mais je veux dire, je pense qu'on fait chacun avec les outils qu'on a.
Je me demande si certains diraient pas que vous l'avez exprimé comme une femme. Je veux dire, comme une femme aurait osé le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais. En fait, c'est drôle parce que...
Non, parce qu'un homme, ça pleure pas, je veux dire. C'est simplement ça que je veux dire.
Alors
que... Oui, mais je sais que... Ce que je veux dire, c'est que moi aussi, je suis
dans
la première.
Dans la culture,
oui. Oui, mais dans la culture en général, on dit toujours que... C'est ça, tu sais. Pleure pas, tu seras un homme.
Oui, mais c'est, en fait, c'est drôle parce que ce livre-là, j'ai souvent dit que je l'avais écrit comme un homme, souvent pour une femme, alors que mon deuxième roman, je l'écris comme un homme pour un homme.
Okay.
Je sais pas si vous comprenez.
Bien sûr.
Donc, je peux comprendre ce que vous dites.
Oui, oui. C'est votre histoire?
Ben, il y a toujours un peu de vrai. En fait, au niveau du passé, c'est beaucoup mon histoire. Je peux dire que c'est quand même pas mal d'autofiction. Je pense que tous les écrivains se basent sur leur vie pour écrire. C'est juste qu'on certains mettent plus de fioritures que d'autres, mais à quelque part.
Oui, parce qu'inventer une histoire, oui, mais inventer une douleur, faut l'avoir connue.
Je sais pas. Je pense que c'est peut-être. Je me rappelle, mon éditeur m'avait dit, c'est là qu'on est capable de voir les écrivains, des grands écrivains. Alors les grands écrivains sont peut-être ceux qui sont capables d'exprimer une douleur dans des mots sans l'avoir vécu.
Oh.
Alors, je me considère peut-être plus comme un écrivain que comme un grand écrivain.
Où est-ce que j'ai lu aussi... un beau roman sur le thème de l'alcoolisme et de ses ravages.
Parce que le père d'Éric dans le roman est un alcoolique.
OK. Et qu'il en parle. Okay.
Et il en parle vraiment. En fait, il essaie justement d'expliquer pourquoi il y a des difficultés à s'attacher aux gens. Et c'est grandement dû au fait que son père est alcoolique et qu'il avait de la misère à s'attacher.
Et c'est de lui dont vous parlez dans le livre quand vous écrivez « J'ai longtemps souhaité sa mort naturelle parce qu'il m'en faisait trop baver avec la vie, avec ma vie. »
Voilà, exactement.
J'étais
c'est drôle
hein,
parce que je pense que l'extrait que j'ai relevé Et peut-être là-dedans, c'est
vrai?
C'est drôle.
Alors je n'en dirai pas plus pour le moment.
Où on y reviendra, là,
voulez-vous qu'on y aille tout de suite ce petit extrait?
Suite, si
regardez, là, je vous ai tendu une perche involontaire, alors allons-y.
Et c'est comme ça, par une froide soirée d'octobre, que mon père s'en est allé. Comme ça, sans crier gare, sans me crier « je t'aime ». Il m'a laissé seul avec ma peine, ma souffrance et ma douleur. Lui est silencieusement tombé au combat. Son cœur n'était plus capable de combattre cette angoisse, ce mal de vivre qui lui rongeait l'âme en permanence. Il avait acheté du temps toute sa vie. Il était maintenant l'heure de payer. Et le salaud m'a laissé tomber, encore une fois. Quelle douleur j'ai ressentie à l'annonce de sa mort. Quelle ironie de qualifier de vivre une douleur quand on parle de la mort. C'est comme si une partie de ma vie était disparue avec lui, comme s'il était parti avec un morceau de moi. En fait, il est plutôt parti avec presque tous mes morceaux, ne me laissant que quelques miettes, impossibles à recoller. Je suis devenu un casse-tête qui ne s'emboîte plus, un pantin sans fil. À l'opposé, j'ai ressenti un tel soulagement, un mélange d'émotions contradictoires, du bon et du mauvais, de l'aigre et du doux, du noir et du blanc. Son départ définitif, je l'avais souhaité si longtemps, j'avais tant voulu qu'il parte, qu'il me foute la paix, qu'il me laisse tranquille. Mais parce que je ne pouvais imaginer ma vie sans lui, j'ai aussi ressenti la pire impuissance face au monstre de ma propre destinée. Je me sentais tellement impuissant, si minuscule, je me sentais aussi gros qu'un gros rien du tout, un immense rien du tout.
Quelles belles images! De belles images.
Des belles mauvaises images.
Oui, c'est ça, ce sont des mauvaises, mais je veux dire que c'est joliment écrit, voilà ce que je voulais dire de façon un petit peu malhabile. Je suis vraiment très touchée. C'est Patrick Dion que vous venez d'entendre, l'auteur de « Folle alliée » dont nous sommes en train de parler en ce moment à l'émission. Patrick, vous avez, il y a quelqu'un qui a été important dans votre vie littéraire.
Oui.
Quelqu'un d'ailleurs que j'ai bien hâte aussi de pouvoir accueillir à l'émission. Je vous laisse la présenter.
Ben oui, il s'agit de Marie-Cécile Labrèche.
Oui.
Et de son roman Borderline, en fait, oui. qui est la genèse de Follalier. Parce que, bien que ça faisait longtemps que j'écrivais, je pensais jamais avoir j'avais pas la prétention de pouvoir accoucher d'un roman. Je pensais pas avoir les qualités d'écrivain. Je pensais pas être capable de maintenir un rythme d'écriture sur 200 pages. Pour moi, c'était impossible. Puis c'est après avoir
lu... Excusez-moi, mais pourquoi?
Je sais pas. Peut-être le fait d'être confiné au blog si longtemps, de faire du biais ou de l'article de 300 mots, de 600 mots, mm-hmm. de 1000 mots. Il y a, quoi, peut-être 50 000 mots dans Follalier. Ouais. Pour moi, c'était impossible à concevoir que je pouvais écrire 50 000 mm-hmm. mots, premièrement. Deuxièmement, il me semble que j'avais pas tant de choses à dire que ça. Puis à la lecture de Borderline de Marie-Cici, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais couché dans mon lit, j'ai commencé à écrire, à lire le roman, puis ça a pris peut-être une quinzaine de pages, puis je me suis levé, il était tard le soir, je me suis levé, j'ai commencé à écrire, je me suis recouché, je me suis relevé pendant la nuit, j'ai lu et écrit comme ça pendant hyper longtemps. En fait, pendant 72 heures, pendant 3 jours de temps, j'ai eu le temps de terminer le roman et j'ai écrit sans arrêt. Ça sortait, c'était vraiment la déferlante, là, ça n'arrêtait pas.
Oui.
Puis elle a vraiment débloqué quelque chose en moi. Je ne sais pas si c'est le côté torturé du personnage où elle réussissait à mettre en mots ce que je vivais vraiment. Mais ça a été pour moi, ça a été un coup de cœur littéraire. Ça a été le roman qui a changé ma vie. Mais ça a été aussi la base de Follalier.
Est-ce qu'elle le sait?
Oui, je pense que... est-ce que je lui ai dit? Je pense que je lui ai déjà dit. Si je ne lui ai pas dit, elle l'a peut-être entendu, mais c'est écrit noir sur bleu, en fait.
En tout cas, maintenant, elle le saura, parce que le jour où elle va venir à l'émission, je lui fais écouter ce petit extrait-là. Ça, je vous le garantis.
Merveilleux.
Patrick Dion, je vous remercie tellement d'être venu. Ça passe vite, hein, 10 minutes comme ça, surtout quand on est en bonne compagnie.
C'est les aléas de la radio.
Et je suis en amour avec votre voix. Je suis bien contente
Merci,
que vous fassiez...
Gentil.
Où est-ce que vous faites des chroniques à Radio-Canada?
Aux éclaireurs, le samedi après-midi.
Samedi après-midi. Oh, on peut bien faire un petit peu de pub pour la tour à côté. Il n'y a pas de problème. Et donc, Patrick Dion, je vous rappelle le titre du livre « Folle alliée », F-O-L, plus loin « Allié » comme un allié, un ami, un partenaire. Et je peux vous dire aussi qu'il en a signé un deuxième dont on ne parlera pas tout de suite parce qu'il n'est pas encore disponible.
Une autre raison d'aimer inviter.
Voilà. Et vous allez aller l'enregistrer pour nous bénévolement.
J'aimerais
en plus.
Beaucoup, tout à fait.
C'est épatant. J'adore ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Je vais vous faire une petite confidence, évidemment, au nombre de livres qui rentrent et qui sortent, vous l'imaginez bien, dans l'organisme ici, chez Vues et Voix, eh bien, il y a parfois, on tombe sur des petits trésors. Et à un moment donné, parce qu'on a comme une bibliothèque ici, et dans la bibliothèque, on retrouve des livres qui sont à vendre. On a des livres qui sont réservés parfois par les bénévoles, qui les lisent et qui les réservent. Et puis, donc, il y en a qui sont disponibles. Moi, je vais piocher là-dedans allègrement, évidemment, pour cette émission à Livre Découvert. Et je tombe à un moment donné sur un livre tout petit par la taille, avec de la dorure sur les côtés, avec un côté... Et moi, là, j'ai tout de suite pensé à ma collection et à ma rubrique « Le classique de la semaine ». Et je me suis dit, mais de que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allons voir. Et c'était « Mansfield Park ». De Jane Austen. Et je me suis dit, oh, la bonne idée pour le classique de la semaine. Alors, j'ai envie de vous le présenter. Madame Austen, dont on ne sait pratiquement rien, finalement, de cette femme-là, si ce n'est quelques dates et puis quelques lieux, notamment celui où elle a vécu. Son iconographie est réduite à un portrait que fidèle sa sœur. C'est tout ce qu'on a. Et Jane Austen, qui est née en 1775, qui est morte en 1817, elle est morte relativement jeune, hein, elle serait tombée dans l'oubli le plus total s'il n'y avait eu ces 6 romans qu'elle a écrits et qui sont parmi les plus étonnants du domaine romanesque anglais où, bizarrement, il ne se passe quasiment rien. Non, parce que c'est vrai, quand on regarde Jane Austen, quand on lit ce qu'elle fait, bon, Elle raconte quoi? Elle raconte principalement des rapports qui se tissent entre des demoiselles à marier, entre des épouseurs en puissance. Alors, tout ça est fait de dialogues, d'évocations brèves. C'est rempli de mondanité. On est dans des jardins, on boit le thé, on papote, on se jalouse, on se titille, on se martyrise. Finalement, ce n'est que ça, mais ça a un charme fou. Et vous savez qu'elle a un véritable fan club encore maintenant, on les appelle les Janéites, qui sont vraiment des inconditionnels de cette romancière. Mansfield Park, elle a toujours été... on parle de Fanny, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Il me reste combien de temps, mon ami, parce que j'ai un petit extrait. Hein. Écoutons l'extrait qui va bien nous mettre dans l'ambiance de ces familles où l'on se marie, on s'épousaille, on se sépare.
Il y a une trentaine d'années, Mademoiselle Maria Ward, de la petite ville de Huntington, n'ayant pour toute fortune que 7000 livres, eut la chance de captiver le cœur de Sir Thomas Bertram, du parc de Mansfield, dans le comté de Northampton, et de se trouver élevée au rang d'épouse d'un baronnet, bénéficiant ainsi de tous les avantages qu'offrent une grande demeure et un important revenu. Tout Huntington se récria sur les avantages d'un tel mariage, et son oncle, homme de robe, reconnut qu'elle aurait dû posséder au bas mot 3000 livres de plus pour pouvoir y prétendre. Elle avait deux sœurs qui paraissaient devoir profiter de son élévation et ceux de leurs amis qui estimaient l'aînée des sœurs de Mademoiselle Maria, Mademoiselle Ward, et la cadette, Mademoiselle Frances, tout aussi jolie qu'elle, ne se faisaient aucun scrupule de leur prédire des mariages presque aussi avantageux. Mais il n'y a pas au monde autant d'hommes d'une grande fortune que de jolies femmes qui les méritent. Mademoiselle Ward, après avoir attendu 5 ou 6 ans, fut obligée d'accepter un ami de son beau-frère, le révérend Norris, qui n'avait que fort peu de biens personnels, et Mademoiselle Frances fut encore plus mal partagée. Le mariage de l'aînée des demoiselles Ward ne fut pas, au fond, aussi dédaignable que cela. Sir Thomas se fit un plaisir de procurer à son ami le bénéfice de Mansfield. Aussi, monsieur et madame Norris s'engagèrent-ils dans la carrière de la félicité conjugale avec à peine moins d'un millier de livres par an.
Ça sent la poudre, hein, vous savez, ça sent... Il me semble entendre les dentelles comme ça qui se déplacent dans les jardins. Puis alors cette lecture de mon amie Josette, ça c'est vraiment parfait pour ce type de livre. Je vous rappelle que c'était le classique de la semaine que je vous présentais, Mansfield Park de Madame Jane Austen, et un livre qui vous permet de suivre les péripéties de cette jeune Fanny qui est, nous dit-on, la quintessence de l'être qu'en tant que lecteur, on a envie d'aimer, de protéger et d'assister. Oh, c'est beau, c'est très très beau.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde de Seille et ses invités. Chapitre 4.
Chapitre 4, sur la table de chevet de Clotilde. J'ai choisi aujourd'hui un livre qui est effectivement toujours sur ma table de chevet. C'est un livre de Philippe Delerme qui s'intitule « Elle marchait sur un fil ». Et je trouve que c'est un livre qui fait écho au livre que notre ami Patrick Dion est venu nous présenter un petit peu plus tôt, « Folle alliée ». Celui-ci, donc, elle marchait sur un fil. C'est l'histoire, non pas d'un homme qui est en chagrin d'amour, mais d'une femme qui est en chagrin d'amour. Elle est mariée depuis 30 ans et tout d'un coup, elle s'appelle Marie, et tout d'un coup, l'homme, son compagnon, en fait, parce que je suis pas sûre qu'il soit marié, c'est son compagnon de ses 30 dernières années. Il s'appelle Pierre et il vient lui annoncer qu'il désirait la quitter. Évidemment, elle se retrouve seule, mais bizarrement, elle se dit « Mais est-ce que je suis aussi seule que ça ?» En fait, elle s'attendait à une cata totale et à sa plus grande surprise, elle ne se sent pas si malheureuse que cela. En fait, elle n'a même jamais été aussi épanouie. Et alors bon, c'est vrai qu'elle a autour d'elle une bonne famille, elle a son fils, Étienne, elle a avec son épouse Sarah. Ils ont une petite fille qui a 10 ans, qui s'appelle Léa. Elle a aussi un vieil ami, André, avec qui elle adore discuter et parler de littérature. Et puis elle a cette maison en Bretagne, une maison secondaire, comme on dit, où elle passe ses étés. Et c'est là qu'elle décide d'aller. Elle va même trouver une petite jobine là-bas. Et surtout, elle va faire la rencontre avec des nouveaux voisins. Elle va rencontrer des jeunes. Et ces voisins-là, qui s'appellent Mika, Olivia, Jeanne, Louise et Joseph, souhaitent tous les cinq rentrer au conservatoire, tout comme son fils à elle l'avait fait quelques années plus tôt, afin de devenir des comédiens. Et là, finalement, l'histoire se répète pour elle, parce que Marie, donc avec ce fils qui voulait rentrer au conservatoire pour devenir comédien, mais elle ne l'a peut-être pas soutenu comme elle l'aurait voulu. Et là, tout d'un coup, elle a tous ces jeunes autour d'elle qu'elle a envie de soutenir. Et là, elle va peut-être pouvoir mener à bien cette mission. Alors, c'est un roman sur le désir de s'accomplir pleinement dans la vie, de voir certains de ses rêves se réaliser, tandis que d'autres s'écroulent. Bref, c'est un roman sur la vie, mes amis, que vous propose Philippe Delerme avec « Elle marchait sur un fil ». Quelques critiques de presse. Dans la presse, le 26 mai 2014, on écrivait « L'auteur français nous est arrivé cette semaine avec un rare roman ». Elle marchait sur un fil, livre intergénérationnel dans lequel on retrouve son écriture séduisante, son amour pour les arts et sa capacité de capter la lumière qui émane des lieux et des gens. Et puis toujours dans l'Express, le 22 avril 2014, on lisait « Toujours dans la veine des petits bonheurs, elle marchait sur un fil, le dernier roman de Philippe Delerme relève plus de la comédie douce amère que de la scénette sautillante ». Alors j'ai pour vous un petit extrait. Je m'en vais ici au livre. Alors, nous sommes page 39, et Philippe Delerme qui écrit ceci. La paix. Marie n'aimait pas trop ce mot. Elle n'aimait pas non plus les mots harmonie, équilibre, qui traduisaient sans doute l'idéal d'autres passagères du square. Celle-là pratiquait le jogging avec une intensité plutôt violente. Une autre prenait un cours de gymnastique avec un professeur particulier. La paix paraissait de très loin préférable à l'équilibre, à l'harmonie. Mais Marie avait choisi un autre mot, devenu douloureux, difficile, bonheur. Un mot qui n'était guère à la mode quand elle avait 20 ans, 30 ans. À présent, on faisait commerce d'un bonheur épicurien, volontariste, remède à la crise économique et à la solitude. Pour Marie, le bonheur n'était pas cela. Elle avait éprouvé si fort à une époque bien délimitée de sa vie, peut-être entre 30 et 40 ans. Ceux qu'elle aimait étaient tous là. Ses parents vieillissaient si lentement.
Les trajets, les odeurs naissance, le bruit des nuits d'été. Le dimanche soir, la résidence. Ton enfant s'est passé. Tu as vu sur l'écran les amours, les amants, le garçon, l'escalier. 15 ans, les yeux fermés. Et tu m'embrasses à présent. Et tu défais tes vêtements. Les choses de la vie d'avant ont disparu dans le vent. Tu as pris cet appartement, tu lisais dans le soir une cigarette et un roman. Tu as éteint très tard, tu as connu les gens et tu dansais souvent. Tu as parlé la nuit à des visages enfuis et tu m'embrasses à présent. Tes vêtements, les choses de la vie d'avant ont disparu dans le vent. Thank you. Et tu m'embrasses à présent. Et tu défais mes vêtements. Les choses de la vie d'avant tournent sur le plafond blanc. Et tu m'embrasses à présent.
Et après le père, c'était le fils, puisque je vous parlais du livre de Philippe Delerme, Elle marchait sur un film qui est sorti chez Seuil et qui maintenant est disponible depuis très peu de temps au SQLA. Et c'était Vincent Delerme qu'on entendait tout de suite, qui chantait avec, malheureusement, je ne sais pas qui est la jeune femme. Elle n'était même pas identifiée, en fait, sur l'album. Mais je peux vous dire que c'était vraiment Vincent Delerme, le fils d'eux, qui chantait cette chanson qui s'intitulait « Les soirs d'été », quelque chose du genre, je vais retrouver ça. Voilà, « Bruit des nuits d'été » de Vincent Delerme.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
La semaine prochaine, nous allons retrouver un bénévole. Aujourd'hui et la semaine dernière, pour vous mettre tout à fait dans la confidence, nous devions avoir aujourd'hui celle qui n'a pu se présenter la semaine dernière parce qu'elle était vraiment trop malade. Et cette semaine, eh bien, ça ne s'était pas arrangé, son affaire. Vous savez comment la grippe est violente et mauvaise en cette année 2015. Alors la pauvre chouette n'a pas pu se présenter encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai remplacé la chronique du ou de la bénévole par cette rubrique, on pourrait appeler ça comme ça, de ma table de chevet avec M. Delerme. Mais là, la semaine prochaine, je vais recevoir Luc Mercure en espérant qu'il ne chope pas cette même grippe. Non, je ne pense pas parce qu'il s'en sort aussi, lui, en ce moment-là. Donc, Luc Mercure, qui a lu pour nous, pour vous, Le Royaume, le fameux livre Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Donc, il va venir nous en parler la semaine prochaine avec un grand plaisir. Le résumé, eh bien, ce sont quelques mots qui sont signés d'Emmanuel Carrère, que j'ai envie de vous lire, qui nous dit « À un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Cela a duré 3 ans. C'est passé. » Affaire classée alors, oh, il faut qu'elle ne le soit pas tout à fait pour que 20 ans plus tard, j'ai éprouvé le besoin d'y revenir. Ces chemins du Nouveau Testament que j'ai autrefois parcourus en croyant, je les parcours aujourd'hui, et là il se pose la question, en romancier, en historien, disons en inquiéteur, écrit Emmanuel Carrère. Alors dans les journaux, évidemment, on a beaucoup écrit sur Le Royaume. Il y a énormément de critiques qui ont suivi la parution de ce livre. Dans la presse, en septembre 2014, on écrivait « C'est l'enquête d'un écrivain sur les écritures et le récit, souvent drôle, du désir de croire d'un agnostique amical envers le christianisme. Carrère, comme d'habitude, surprend. » Dans Le Devoir, au sommet de son art, Carrère signe un ouvrage passionnant, 7 ans de lecture et de réflexion, que 20 ans de vie englobent. Dans Culture Box, c'est en tout cas un livre savant, touffu, dont on imagine quelle somme colossale de travail il a dû demander à son auteur. Il nous avait prévenu « Quand j'aborde un sujet, j'aime bien le prendre en tenaille. Le Royaume est un livre extraordinairement documenté, un peu escarpé du coup pour celui qui ne connaît pas très bien le sujet. » Dans l'Express, on disait « C'est un des chocs de cette rentrée. Entre fresques historiques et réflexions théologiques, Emmanuel Carrère remonte aux sources du christianisme, un chemin vertigineux où les apôtres croisent l'écrivain d'aujourd'hui, mais aussi l'ex-catho pétri de doutes. Son royaume est bien de ce monde. » Et puis dans la presse encore, au mois d'août 2014, on pouvait lire « Croyants ou non-croyants, précipitez-vous sur Le Royaume » d'Emmanuel Carrère, palpitante fresque enquête sur les débuts de la chrétienté, qui mêle d'une plume extraordinairement vivante histoire, méditation, humour, érudition et souvenirs intimes, le choc de la rentrée littéraire française. Aussi dans Télérama, entre péplum et exégèse, cette histoire des premiers temps du christianisme ébranle autant qu'elle passionne. Je peux vous dire quelque chose, je suis extrêmement jalouse de ne pas avoir lu ce livre. C'est Luc Mercure, finalement, donc, qui l'a lu pour vous. Et c'est lui qui viendra nous en parler la semaine prochaine. Je vous propose un petit extrait. C'est très drôle, c'est le tout début du livre. Et ça nous amène à comprendre pourquoi, avec une histoire toute bête qui concerne quelqu'un de très connu, il est arrivé à écrire ce livre-là.
Il y a, dans les mémoires de Casanova, un passage que j'adore. Enfermé dans la sombre et humide prison des Plombs à Venise, Casanova forme un plan d'évasion. Il a tout ce qu'il faut pour réaliser ce plan, sauf une chose, de l'étoupe. L'étoupe doit lui servir à tresser une corde ou une mèche pour un explosif, je ne sais plus. La chose importante à comprendre, c'est que s'il en trouve, il est sauvé. S'il n'en trouve pas, il est perdu. Cela ne se trouve pas comme ça, de l'étoupe, en prison. Mais Casanova, tout à coup, se rappelle que, lorsqu'il s'est fait faire la jaquette de son habit, il a demandé au tailleur, pour absorber la transpiration sous les bras, de garnir la doublure avec, devinez quoi? De l'étoupe. Lui qui maudissait le froid de la prison, contre quoi le protège si mal sa petite jaquette d'été, il comprend que c'est la Providence qui a voulu qu'il soit arrêté en l'ayant sur le dos. Elle est là, devant lui, suspendue à un clou fiché dans le mur lépreux. Il la regarde, le cœur battant. Dans un instant, il va déchirer les coutures, fouiller dans la doublure, et à lui la liberté. Mais alors qu'il va se jeter sur elle, une inquiétude le retient. Si le tailleur, par négligence, n'avait pas obéi à sa demande? En temps normal, ce ne serait pas grave. À présent, ce serait tragique. L'enjeu est si énorme que Casanova tombe à genoux et se met à prier. Avec une ferveur oubliée depuis son enfance, il prie Dieu pour que le tailleur ait bien mis de l'étoupe dans la jaquette. Soit elle y est, soit elle n'y est pas. Et si elle n'y est pas, ses prières n'y changeront rien. Dieu ne va pas l'y mettre, ni faire rétroactivement que le tailleur ait été consciencieux s'il ne l'a pas été. Ses objections logiques n'empêchent pas Casanova de prier comme un perdu. Et il ne saura jamais si sa prière y a été pour quelque chose, mais pour finir, l'étoupe est bien dans la jaquette. Il s'évade.
C'est absolument délicieux. C'est le début du livre « Le royaume » d'Emmanuel Carrère que vous venez d'entendre, tel que lu par Luc Mercure, le bénévole qui l'a lu pour vous, et que je vais recevoir la semaine prochaine à l'émission, pas au quotidien, non, à Livre Découvert.
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie. Je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Des nouvelles et des livres.
Et ce n'est pas par hasard si j'avais choisi de vous faire entendre Jane Birkin avec ses petits riens, chanson de Serge Gainsbourg, évidemment, parce que ça nous amène vers l'auteur de Éloge des petits riens, entre autres. Cette femme s'appelle, ou je devrais dire s'appelait, Geneviève Robitaille, parce que malheureusement, on a annoncé son décès il y a maintenant deux semaines de cela. Dans Le Devoir, entre autres, Catherine Lalonde nous en parlait en disant que l'auteur Geneviève Robitaille, née en 1961, est décédée à l'hôpital de complications liées à une opération et à sa maladie dimanche dernier. Son premier récit, Chez moi, qui était sorti chez Triptyque en 1999, était déjà hanté, comme la vie de l'auteur, par la présence d'une maladie dégénérative, l'arthrite rhumatoïde. Geneviève Robitaille, aussi semi-voyante, n'a jamais hésité à parler de ses deuils et de ses limites physiques. Le thème de la maladie revient dans son œuvre, Mes jours sont vos heures, sorti chez Triptyque en 2001, Éloge des petits riens dont nous venons de parler, sorti chez Ici et là et Le Méac en 2005, et puis Chute avec Yvan Binet chez J'ai vu en 2006. En 2008, la collègue Danielle Laurin disait de Désamour, paru chez Le Méac. Elle dit les choses directement, elle ne se met pas en scène, elle est telle qu'en elle-même, telle qu'elle se voit, se perçoit, se sent. Sans en mettre pour la galerie, sans apitoiement non plus. Elle est malade, oui, elle souffre d'arthrite rhumatoïde, d'une maladie dégénérative, elle se déplace en fauteuil roulant, elle regarde le monde à travers des lunettes loupes. Tout ça, on le savait déjà depuis chez moi. Il y a dans Désamour une force extraordinaire et une vulnérabilité effrayante. Il y a une grande beauté, une grande authenticité et une voix unique. De Geneviève Robitaille et notamment de ce livre Chez moi, Pascal Navarro écrivait dans Voir notamment « Alors qu'elle se refait la trentaine bien sonnée, une vie simple mais riche, la jeune femme née d'une mère d'origine libanaise et d'un père québécois essaie de mieux connaître le couple déséquilibré que formaient ses parents et de comprendre cette famille meurtrie. » Elle écrivait, Geneviève Robitaille, « Après la mort de mon père, nous ne parlions presque plus français chez moi. » Mon grand-père n'y comprenait rien et c'est lui qui nous élevait pendant que ma mère travaillait jour et nuit dans le tout Montréal. Et encore ceci, l'adolescence me guettait, impatiente de me transformer en une autre que j'avais commencé déjà à construire sur des débris, une autre que je ne reconnaîtrais jamais dans ma vie d'adulte et contre laquelle je me battrais quotidiennement. Elle était atteinte d'une maladie grave, nous rappelle Pascal Navarro, cette jeune femme qui aura appris à vivre avec un corps ralenti, mais avec un esprit vif et imaginatif. Donc, Chez moi, c'est un des livres de Madame Robitaille que nous avons au SQLA. Nous avons aussi L'éloge des petits riens. Et nous avons, oh, c'est un livre, on disait de ce livre que l'écriture était de plus en plus belle et elle suivait de plus en plus la chronologie de sa maladie. Il y a une femme, je ne sais plus qui avait écrit dans une critique que si ses os sont fragiles, son zen, lui, est solide. Au sujet de Mes jours sont vos heures, qui est également un livre que nous avons, qui est disponible au SQLA, c'est la même Pascal Navarro qui écrivait « Après avoir donné un très beau récit, premier récit, chez moi, paru en 1999, Geneviève Robitaille réitère l'expérience avec « Mes jours sont vos heures ». Alors qu'elle racontait sa vie de petite fille, sa famille, dans ce premier livre, « Des origines », elle évoque ici son présent, sa vie intérieure, ses rêves aussi, en dépit de cette maladie qui l'a ralentie. Un extrait de ce livre. « Un silence se pose en moi chaque jour, comme une fragile tombée de neige. » La nuit, dans un cimetière enseveli par l'hiver. Un silence puissant qui tait les choses de la vie auxquelles je n'ai plus accès. Des deuils trépassés, je ne courrai plus, marcherai peu, verrai sobrement, sombrement. » écrivait cette femme, Geneviève Robitaille, qui évoquait déjà sa maladie dès son premier livre et qui a toujours continué d'en parler avec beaucoup d'ouverture. D'ailleurs, c'était encore une fois Pascal Navarro qui disait que le destin en a décidé autrement. Elle qui voulait faire du théâtre, Geneviève Robitaille, et qui d'ailleurs avait commencé à apprendre à l'école de Saint-Hyacinthe, où elle a connu notamment Maud Guérin et puis aussi Serge de Noncourt. Et bon, finalement, elle n'a jamais plus, évidemment, joué au théâtre à cause de sa maladie. Et Geneviève Robitaille est aujourd'hui écrivaine, écrivait Pascal Navarro. Elle qui ne voit pas très bien, elle regarde le monde les yeux grands ouverts. Vraiment très, 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 très beau. Alors, Madame Robitaille, je vous redonne le titre des livres que nous avons de cette femme qui, je vous le rappelle, nous a quittés en février de cette année. Alors, Éloge des petits riens, nous avons aussi Des amours, nous avons Chez moi et nous avons Mes jours sont vos heures.
Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, oui, quelques titres que je suis allée trouver pour vous dans la liste des nouveautés au catalogue du SQLA. Alors, d'abord, un bon polar, comme vous les aimez, de Karine Giebel, ou Giebel, Giebel, je pense, G-I-E-B-E-L. J'ai déjà présenté un bouquin d'elle, je pense, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Celui-ci s'intitule « Les morsures de l'ombre ». Écoutez bien ça, c'est une femme rousse, plutôt charmante. Oui, oui, il se souvient un peu. Il l'a suivie chez elle, ils ont partagé un verre, il l'a prise dans ses bras. Ensuite, c'est le trou noir. Quand il se réveille dans cette cave derrière ses barreaux, il comprend que sa vie vient de basculer dans l'horreur. Une femme le retient prisonnier, l'observe, le provoque, lui fait mal. Rituel barbare, vengeance, dessein meurtrier, pure folie, une seule certitude, un compte à rebours terrifiant s'est déclenché. Combien de temps résistera-t-il aux morsures de l'ombre? Un lecteur dit dans une critique qu'il fait de ce livre « Les morsures de l'ombre » un roman glaçant qui ferait passer « Misery » de Stephen King pour un roman d'ado. Imaginez, c'est ce que disait la quatrième de couverture et il dit « Bon, je réfuterai le fait que King ait écrit de la littérature pour ados boutonneux, mais faut avouer que sa Katie Bates a trouvé une femme pire qu'elle. Oui, c'est possible. » Un petit extrait, oui j'en ai un ici. « La faim et le froid ne l'atteignent même plus, on s'habitue à tout, ou presque. Benoît s'enfonce lentement dans une sorte de marécage vaseux. Plus on s'agite, plus vite on coule, paraît-il. Alors il bouge le moins possible, une technique comme une autre. De toute façon, ses muscles sont encore traumatisés par l'expérience sensorielle inédite gracieusement offerte par sa charmante geôlière. » Les mesures de l'ombre de Karine Giebel, G-I-E-B-E-L. Dans un tout autre ordre d'idées, paradis fiscaux, la filière canadienne, ça c'est un sujet très très à la mode. Et pour en savoir un petit peu plus sur la filière canadienne au Barbade, au Caïman, aux Bahamas, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, etc., eh bien Alain Deneau nous dit « Suivez le guide et on va des îles anglo-normandes, Jersey et Guernsey, au Liechtenstein ou Andorre, qui sont souvent taxés d'être des havres pour échapper au fisc, les îles Caraïbes britanniques telles les Bermudes, Caïmans ou Turques et Caïques, de même que les anciennes colonies anglaises de sa gracieuse majesté, comme les Bahamas, Trinité et Tobago ou la Barbade, qui sont aussi du nombre. Mais ce qu'on sait moins, c'est le rôle majeur qu'ont joué le Canada et avant tout les banques canadiennes dans l'édification de refuges confortables pour capitaux et fortunes allergiques à toute ponction fiscale. Alors, si vous voulez sacrer un peu ou pleurer ou en tout cas crier et crier au loup en ces périodes d'austérité où l'on sait qu'on pourrait récupérer des milliards et des milliards qui sont en ce moment dans des comptes bancaires de ces îles merveilleuses et magiques, eh bien ruez-vous sur ce bouquin de monsieur Alain Deneau, D-E-N-E-A-U-L-T, Paradis fiscaux, la filière canadienne. À l'école de la nuit de Louis Bayard, B-A-Y-A-R-D, nous sommes en Angleterre au XVIe siècle. Thomas Harriot, mathématicien et astronome, est considéré comme le Galilée anglais. Scientifique de génie, il a constitué avec quatre de ses amis, dont l'explorateur et espion Walter Raleigh et le dramaturge Christopher Marlowe, une mystérieuse société secrète, l'école de la nuit. Nuit. Un tout petit extrait. À l'époque, la langue n'était pas standardisée. Il n'y avait pas de dictionnaire de référence et les gens ne pensaient pas qu'il devrait y avoir une graphie attestée pour chaque mot. C'était donc la prononciation et la logique qui dictaient la façon d'écrire de chacun. Le nom Shakespeare, par exemple, avait quelque chose comme 16 orthographes différentes. D'ailleurs, lui-même n'écrivait pas son nom comme nous le faisons aujourd'hui. Hein, intéressant, un extrait de « À l'école de la nuit » de Louis Bayard. Dumas, le conte noir de Tom Reiss, R-E-I-S-S. Le conte noir, c'est le troisième Dumas, ou plutôt... je devrais dire le premier, le général révolutionnaire, le fils d'une esclave et d'un aristocrate français exilé, Thomas-Alexandre Davy de la Pailleterie, dit le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, père, et donc le grand-père d'Alexandre Dumas, fils. Vous me suivez, c'est l'histoire de cet homme-là. Il en fait Tom Reiss, R-E-I-S-S, il en donne une biographie passionnante, ça se dévore comme un roman, avec facilité et plaisir pour les amoureux d'histoire. C'est vraiment à ne pas manquer. Je pense que je n'ai plus de temps pour... j'en aurais peut-être eu un autre, mais ça fait rien, je vais le garder pour la semaine prochaine. Je voudrais remercier mes invités aujourd'hui, Anne Jarry et également Patrick Dion qui est venu nous rendre visite. Je voudrais aussi remercier mon camarade Jean-Sébastien Laliberté qui m'accompagne toujours aussi bien en régie, quelle que soit l'émission que j'anime ici sur les ondes de Canal M. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très heureuse lecture. Passez une belle fin de journée, une belle semaine. À la semaine prochaine.